France Inter, Alexandra Ben Saïd, Ali Badou, le 7-9.
Mercredi 30 octobre, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Fiat Chrysler et PSA en discussion avancée. Les deux groupes négocient un rapprochement. La fusion donnerait naissance à un nouveau géant de l'automobile mondiale. Les autres titres, Bernadette.
Gros malaise social, avenir économique inquiétant, droit d'alerte économique déclenché à la SNCF. C'est une première dans l'histoire de l'entreprise. La République fait bloc quand l'obscurantisme revient. Emmanuel Macron après l'attaque contre la mosquée de Bayonne. En Turquie, les réfugiés syriens sans papier priaient de quitter le territoire d'ici ce soir. Quand la paternité donne des ailes à Bercy, le futur papa, Jérémy Chardy balaye le numéro 4 mondial Medvedev. Et enfin à Marseille, toujours la peur, la rage, un an après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne.
Invité de France Inter ce matin et justement à 7h50, Alexandra Ben Saïd.
C'est le journaliste marseillais Philippe Pujol, son nouveau livre arrive un an après les 8 morts de la rue d'Aubagne, après quasiment un quart de siècle pour Jean-Claude Gaudin à la mairie et à 5 mois des municipales. À 7h50, c'est une enquête et un réquisitoire.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et sur l'application France Inter.
France Inter.
Automobile, c'est donc reparti pour les grandes manœuvres. Information révélée hier soir par le Wall Street Journal, confirmée ensuite par plusieurs sources. PSA et Fiat Chrysler négocient un rapprochement. En cas de fusion, on assisterait à la naissance du quatrième groupe mondial, un géant de 50 milliards de dollars, près de 9 millions de voitures vendues par les deux groupes l'an dernier. Un accord win-win, gagnant-gagnant, c'est ce que recherchent en tous les cas, et bien sûr, les deux groupes, Pierre-Yves Dugas.
Pour le groupe français, l'opération ouvrirait les portes du marché américain. Fiat Chrysler, avec son réseau de concessionnaires, représente 13% du marché des États-Unis. Le groupe italo-américain, de son côté, se renforcerait en Europe et, bien sûr, pourrait mieux partager les coûts énormes des investissements nécessaires au développement de véhicules électriques et de voitures autonomes. Le schéma envisagé ferait de Carlos Tavares, actuellement patron de PSA, le patron du nouveau groupe. John Elkann, patron de Fiat Chrysler, héritier du clan Agnelli qui détient encore 29% du groupe italien, présiderait, lui, le conseil d'administration. John Elkann avait renoncé à fusionner Fiat Chrysler avec Renault en juin dernier, jugeant que le gouvernement français, actionnaire de Renault, ne soutenait pas son approche. Washington, Pierre-Yves Dugas, France Inter.
Et hier soir à Wall Street, le cours de Fiat Chrysler s'est envolé à plus de 6% dans la série Bonne Santé de l'économie européenne. La commande du siècle pour Airbus, 300 appareils achetés par Indigo, une compagnie indienne low cost. C'est tout simplement la plus grosse commande passée par une seule compagnie depuis 20 ans.
Bonne santé économique, ce n'est pas vraiment le cas pour la SNCF.
C'est même tout le contraire à la SNCF. Le malaise n'est pas seulement social, il est aussi économique, au point qu'aujourd'hui va être activé le droit d'alerte économique par les élus du CSE. C'est la nouvelle instance qui représente maintenant le personnel. C'est une première dans l'histoire de la SNCF. Raphaël Ebenstein, les élus dénoncent une situation intenable, liée notamment à la réforme ferroviaire de l'an dernier.
Presque 2000 départs volontaires, démissions, ruptures conventionnelles enregistrées à la SNCF en 2018, une hausse de plus de 60% par rapport à l'année précédente. C'est l'un des signes, parmi d'autres, du gros malaise interne pointé par les représentants du personnel. Ils s'inquiètent pour l'avenir même du groupe, dont certaines activités seraient selon eux d'ores et déjà sacrifiées, comme le fret ferroviaire, à échéance tout au plus de 2 ans. Céline Simon, secrétaire du CSE central.
L'exemple du train Perpignan-Rungis est un véritable exemple sur la situation qui est faite au transport de marchandises aujourd'hui dans notre pays, que nous considérons comme une catastrophe à la fois pour l'entreprise ferroviaire et en même temps pour notre pays.
Autre motif de ce droit d'alerte, la situation à terme de SNCF Réseau, dont la dette a encore augmenté de 2 milliards d'euros depuis le début de l'année, alors que les investissements actuels ne suffisent même pas à empêcher le vieillissement des infrastructures ferroviaires, notamment de la signalisation, d'où une menace très claire pour les élus sur ce qu'on appelle les petites lignes, au moins 9000 km de voies qui paraissent à leurs yeux purement et simplement condamnées.
Alors aujourd'hui, encore un trafic très perturbé pour les TGV Atlantique, seulement 1 sur 3 en circulation. Pour la fin de semaine, les retours de vacances et les départs en week-end de la Toussaint, la direction de la SNCF promet 8 TGV sur 10, donc à partir de demain jusqu'à dimanche. 450 salariés d'Engie dans l'inquiétude. Le fournisseur de gaz va fermer 3 de ses centres d'appel à Toulouse, Villeurbanne et Bagneux. Le groupe est en pleine restructuration en vue de la fin des tarifs réglementés en 2023. Au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne qui a fait 2 blessés graves, le président de la République inaugurait hier soir le Centre européen du judaïsme à Paris. Une nouvelle occasion pour Emmanuel Macron de rappeler l'essentielle solidarité face à l'intolérance en utilisant volontairement la même formule qu'après l'attaque islamiste contre la préfecture de police de Paris.
Je veux avoir une pensée amicale et républicaine pour nos compatriotes gravement blessés à la mosquée de Bayonne, parce qu'ils croyaient et venaient prier. La République fait bloc autour d'eux, comme elle fait bloc autour de chacun de ses enfants lorsque l'obscurantisme et l'intolérance réapparaissent.
Propos du président de la République recueilli par Julie-Marie Lecomte, alors que l'assaillant de la mosquée de Bayonne affirme en garde à vue avoir voulu venger l'incendie de Notre-Dame de Paris. Pendant ce temps au Sénat, le parti Les Républicains faisait passer sa proposition de loi interdisant tout port de signes religieux pour les parents qui accompagnent les sorties scolaires. 163 voix pour, 114 contre, 40 abstentions. Le texte ne devrait pas être voté par l'Assemblée nationale qui est dominée par la majorité présidentielle. À l'étranger, au Liban, une démission sous les vivats de la foule. Le Premier ministre Saad Hariri annonce son départ à la télévision. Aussitôt, scène de liesse à Beyrouth, à Tripoli. Depuis 13 jours, les Libanais sont dans la rue, révoltés par une classe politique accusée de corruption et d'incurie.
7h07, la suite du journal. En Turquie, Bernadette, les réfugiés syriens ne sont plus les bienvenus.
3,5 millions de réfugiés syriens sont arrivés dans le pays en Turquie, poussés bien sûr par la guerre en Syrie, plutôt bien accueillis au départ. Mais le gouvernement Erdogan a subi revers électoral sur revers électoral, alors il resserre l'étau. Les réfugiés syriens sans papier ont jusqu'à ce soir pour quitter le territoire. Et à Istanbul, certains comme Eubeida, opposant au régime de Damas, que vous avez rencontré à Nandloer, ont très peur d'être renvoyés de force en Syrie.
Cela fait 8 ans qu'Obeida vit en Turquie et 1 mois qu'il est dans l'illégalité. Cet opposant de 33 ans est entré dans le pays avec son passeport syrien et un visa d'étudiant. En septembre, son passeport a expiré et avec lui, son permis de séjour. Obeida, qui ne veut pas se rendre au consulat syrien d'Istanbul, se retrouve sans papier.
Je ne peux pas m'éloigner de chez moi et je fais tout à pied. Je ne prends même pas les transports en commun de peur d'être contrôlé par des policiers.
Les Syriens qui vivent à Istanbul sans y être enregistrés, des dizaines de milliers de personnes au bas mot, ont jusqu'à ce 30 octobre pour quitter la province. S'ils refusent, ils risquent d'être arrêtés et officiellement reconduits dans leur province d'enregistrement. Ou peut-être renvoyés de force dans leur pays en guerre. Des ONG accusent Ankara d'avoir expulsé des centaines de Syriens ces derniers mois, ce que les autorités démentent. C'est la plus grande peur d'Obeida qui, lui, n'est enregistrée nulle part.
Pendant des années, la Turquie nous a ouvert les bras. Elle nous a laissé vivre et travailler partout où on voulait. Et puis soudain, pour apaiser le mécontentement de sa population, le gouvernement a commencé à s'en prendre à nous dans les régions où il estimait que nous étions trop nombreux.
La Turquie espère envoyer à terme près de 2 millions de réfugiés dans une zone tampon dans le nord de la Syrie. C'était l'un des grands objectifs de son offensive du début du mois contre les forces kurdes.
Aux États-Unis, un vote du Congrès qui met un coin dans les relations avec la Turquie. Le Congrès américain adopte à une majorité écrasante un texte qui reconnaît comme génocide les massacres d'Arméniens. C'est historique, il s'y était toujours refusé pour garder donc de bonnes relations avec la Turquie. Ankara a d'ailleurs immédiatement condamné ce vote. Près 1,5 million d'Arméniens ont été tués pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman. Brexit, l'issue par les législatives. En tous les cas, Boris Johnson est arrivé à ses fins. Il y aura bien des législatives anticipées en Grande-Bretagne le 12 décembre. Les députés britanniques ont voté pour en majorité grâce aux voix des travaillistes. Avec ce scrutin, le Premier ministre espère retrouver une majorité et mettre enfin en œuvre sa promesse de Brexit d'ici le 31 janvier 2020. C'est la date accordée par l'Union européenne. Il y a un an, à Marseille, 8 personnes mouraient sous l'effondrement de leur immeuble rue d'Aubagne. C'était donc il y a un an. Le mouvement de panique était aussitôt déclenché par les autorités municipales qui font évacuer 371 immeubles menacés de péril. Plus de 3500 personnes se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Et aujourd'hui, un an après, la moitié est toujours hébergée dans des conditions précaires. L'autre est dans l'attente d'un relogement. Quant aux habitants du quartier sinistré, Olivier Martoc, eh bien pour eux, le traumatisme est toujours là.
Les gravats ont disparu, les traces visibles du drame s'estompent. Mais pour les habitants de ce quartier populaire, plus rien ne sera comme avant.
De savoir qu'il y a eu des morts quand même. Comme j'ai connu cette rue d'Aubagne, comme je la connais maintenant, j'ai de la peine et de la rage.
Franchement, ça fragilise les gens. Et puis après, maintenant, le quartier, il est mort complètement, en fait.
Il y a aussi cette inquiétude quasi permanente.
Quand il pleut, on est inquiet, oui, bien sûr. Il y a des pierres qui tombent d'un immeuble. Donc, ça rappelle des très mauvais souvenirs, quoi.
Dans ce quartier de Noailles, où de nombreux immeubles ont été évacués préventivement, Laurent, propriétaire d'un appartement, s'est retrouvé du jour au lendemain à la rue.
C'est une vie de bohème, quoi. On n'est pas chez soi, on n'a pas d'endroit pour se relâcher. Tout est compliqué, quoi. Ce qui est embêtant dans cette période-là, c'est qu'on n'avait aucune communication officielle de personne. J'ai appris que je pouvais rentrer presque par hasard, quoi. Enfin, la rue d'Aubagne mettra du temps à retrouver quelque chose.
314 immeubles et près de 2000 logements, désormais considérés comme insalubres dans le périmètre de Noailles, devraient bénéficier du plan de rénovation d'urgence, doté de 217 millions d'euros. Marseille, Marie-Christine Loriol, Olivier Martoc, France Inter.
Et dans l'actualité aussi, Bernadette, un exploit sportif.
Et oui, au Masters 1000 de Paris, donc Paris-Bercy, c'est du tennis. Le Français Jérémy Chardy remporte l'une des plus prestigieuses victoires de sa carrière. Il bat le quatrième mondial, Daniil Medvedev, qui restait sur 6 finales consécutives. Victoire en 3-7 du Français, 4-6, 6-2, 6-4. 2 heures de combat acharné, certes, mais quand on joue sous les yeux de sa femme enceinte, eh bien ça donne des ailes.
Ce qui est sûr, c'est que le bébé, il a déjà des émotions. Parce que comme Suzanne, chaque fois qu'elle regarde mon match, elle le vit à 100% le match. Non, je pense que je suis très content dans ma vie à l'extérieur du tennis. Donc je pense que ça se ressent aussi sur le court. Quand t'es bien en dehors, bah, c'est plus facile d'aller sur le court, de se battre. Et souvent, tu joues mieux aussi. Et puis maintenant, voilà, je joue aussi pour ma famille. Donc c'est toujours un petit truc motivant. Et puis j'espère pouvoir continuer à bien jouer pour que mon enfant il puisse me voir jouer aussi.
Il affrontera donc Jérémy Chardy, l'américain John Isner ou le chilien Christian Garin pour une place en quart de finale. Autre succès français, Corentin Moutet qui passe le premier tour. Gilles Simon en revanche a abandonné, une douleur aux adducteurs. Éliminé aussi Hugo Humbert et puis deux numéros 1 sur le court aujourd'hui mais ils ne seront pas face à face. Il y aura l'actuel Djokovic et le futur normalement lundi prochain Raphaël Nadal qui jouera face au français Manarino.